France Inter.
Ce soir, eh bien, c'est un peu la dernière occasion pour moi, avant la fin de l'année, de mettre l'accent sur des chansons, des sons qui auraient mérité d'être mis en lumière cette année que j'ai négligé. Il y en a tant, c'est très décourageant parfois. Alors je vais peut-être en surprendre certains parmi vous. Ce n'est pas toujours dans les zones les plus enfouies de l'underground qu'on découvre des trésors cachés. Au contraire, et j'ai été le premier surpris, la preuve.
Like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. Cause you said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. You leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect. It's like, will you catch him or not? I'm Cupid with arrows, babe. I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it.
Daisies, j'imagine que ça avait échappé à pas mal d'entre vous, en tout cas à moi complètement. Il s'agissait de la voix d'un des chanteurs les plus populaires de sa classe d'âge, né au milieu des années 90. Il s'agissait de... Et oui, non, enfin vous saviez peut-être pas, du Canadien, Justin Bieber. Oui, c'était lui. Alors Justin Bieber, il a aujourd'hui 31 ans, il est père, et il voit la vie et la musique tout à fait autrement. Alors j'ai appris ça, il a publié d'une manière tout à fait imprévue, inattendue, un album en septembre dernier, un album qui a reçu beaucoup d'éloges. Alors si j'avais pas lu tout le bien que certains pensaient de ce que Justin Bieber avait enregistré, cet album Swag, je n'aurais pas forcément eu la curiosité d'écouter ce qu'il avait fait, et j'ai vraiment été tout à fait surpris par l'album Swag, un album auquel a participé un guitariste que j'ai découvert cette année et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mickey Guy, et il signe tout simplement Muck Guy, c'est M-K et collé G-2-E. Il y a également un très bon jeune musicien américain qui a participé à cet album qui s'appelle Dijon. Je vous l'ai fait comme Dijon, hein, je vous l'ai fait écouter la semaine dernière. Alors c'est très intéressant ce Muggy. C'est un guitariste qui est situé entre jazz et R&B, il vient du New Jersey. Il est très jeune, hein, il a que 28 ans, et qui a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans son approche de l'instrument. Muggy est formé était formé au jazz, hein, ça s'entend, il a une oreille vraiment très musicale. Il a également été imprégné par les sons du R&B. Il a une façon très particulière de créer vraiment une tapisserie sonore en sculptant d'une manière singulière les sons de sa guitare, une façon très inventive. D'ailleurs, Eric Clapton a été ébloui par son apparition au Tonight Show de Jimmy Fallon sur la chaîne NBC. Il a découvert que ça lui avait fait un effet aussi puissant que quand il avait découvert Prince, pas moins. Et puis, McGee a d'autres admirateurs comme le chanteur et rappeur Frank Ocean, bien connu, et la chanteuse SZA, tous deux immensément populaires. Alors, je vous parle de SZA, j'ai justement un de ses collaborateurs qui a travaillé avec Justin Bieber, décidément vraiment en pleine métamorphose artistique. Il a beaucoup de doutes sur la musique qu'il a faite, il a l'impression que maintenant c'est les choses sérieuses commencent pour lui, il voit la vie autrement, c'est souvent comme ça quand on vient d'être père, et je trouve que vraiment il y a quelque chose qui se passe quand on écoute ça. Alors d'ailleurs à ce sujet je voudrais quand même rappeler une citation de Bob Dylan, j'avais noté ça, je la cite pas exactement, mais un jour, Dylan a dit qu'il existe un préjugé pire parmi les gens qui écoutent de la musique, pire que celui qui frappe les artistes méconnus, très souvent négligés. C'est un préjugé qui consiste à snober les artistes les plus connus, les plus confirmés, et de ne plus rien attendre d'eux, et de ne s'intéresser qu'aux marges. Oui, parfois les surprises les plus rafraîchissantes peuvent surgir chez les artistes les plus installés, les plus connus. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. La preuve, en tout cas, c'est Justin Bieber qui nous la donne cette année. Voici maintenant un musicien qui n'a peut-être pas bénéficié cette année de l'éclairage qu'il méritait, alors beaucoup moins connu hein, que Justin Bieber. C'est un musicien qui se fait appeler Alex G, hein, G comme la lettre G. C'est un garçon de 32 ans, donc il est né en 1993. C'est vraiment la même classe d'âge que Justin Bieber. Alex G s'appelle de son état civil Alex Giannascoli. Il vient d'une banlieue de Philadelphie. Il a commencé à publier de la musique très jeune, en 2010. Donc il avait une quinzaine d'années, c'était l'année de ses 17 ans pour être précis. Alors à l'époque, c'était via un site, peut-être que certains se rappellent, le site MySpace. Puis ensuite, ça a été Bandcamp, hein, qui existe toujours. Alors au début, la musique qu'il faisait, Alex G, alors il l'a dit lui-même, c'était un peu une version rudimentaire de la techno, de l'anglais Aphex Twin. Et ensuite, Alex G a complètement changé, il s'est fait connaître plutôt grâce à des chansons, des chansons au rythme de valse, doucement dissonante, qu'il enregistrait via un système que je ne saurais pas vous décrire, mais avec un côté un peu crapoteux, un peu ce qu'on appelle la low fidelity, un lo-fi, et lo-fi, on dit, je crois. Et il y a quelque chose chez Alex G qui peut évoquer, alors je dis ça vraiment sans être sacrilège, qui peut évoquer les débuts de Elliott Smith. Enfin, il y a quelque chose de vraiment moderne dans l'approche, dans les sons, dans la façon dont Alex G utilise sa voix. D'ailleurs, sa musique et ses chansons ont attiré l'attention de beaucoup d'autres musiciens, notamment d'un des meilleurs chanteurs américains de la nouvelle génération. J'en parlais au sujet de Justin Bieber, c'est le Californien Frank Ocean avec lequel Alex G a collaboré. Alors voilà, c'est un exemple plutôt encourageant et rafraîchissant, puisque à l'heure où tout le monde bricole des sons électroniques chez soi sur son ordinateur, eh bien Alex travaille pour ainsi dire à l'ancienne, c'est-à-dire avec de vieilles guitares, un clavier analogique et une petite batterie. Cette chanson signée Alex G s'appelle Afterlife, elle est extraite de son dernier album qui est paru cet été qui s'appelle Headlights, et cette chanson m'est restée en tête.
come get her. She's in love with a short king. That boy is under 5'9". Ever since I met her, I've been ducking through doorways. I'm angry all the time. I know it sounds stupid, but with my head in the clouds,
King par Alex Cameron. Je vais vous en dire deux mots. C'est une chanson qui vous séduit tout de suite. Enfin, il pouvait en passer à la radio dans les années 70 ou au début des années 80. Encore simple, direct, classique, avec un petit parfum country soul. Ça vous met tout de suite le sourire aux lèvres et puis ça vous donne envie surtout de bouger, de danser. Donc Alex Cameron, c'est un musicien qu'on connaît en France. Il fait l'objet même depuis quelques années d'un petit culte à Paris. C'est un musicien australien qui vient de la ville de Sydney et il a longtemps travaillé en duo avec son pote d'enfance, un saxophoniste du nom de Roy. Ils ont même bossé ensemble dans une pizzeria dans leur ville de Sydney. Et Alex s'est un peu inventé un personnage, en tout cas c'était le cas il y a quelques années. Il s'était glissé dans la peau d'un crooner du pauvre, un peu un type voilà, un peu miteux qui imagine qu'il est Brian Ferry. Alors sur les photos, Alex prenait pour rire des poses existentielles maniérées, fixant l'objectif d'un regard intense, mais en portant un complet moche, mal coupé, en portant des sandales en plastique. Alors c'est peu dire que Alex Cameron ne met pas dans ses chansons en scène des personnages joyeux, pas non plus des personnages tristes d'ailleurs, plutôt des personnages un peu maladroits, mal dans leur peau. Il aime ainsi évoquer dans ses chansons le destin assez calamiteux de personnages auxquels on s'intéresse rarement, le cadre financier qu'on vient de licencier, le présentateur de jeux télévisés privé d'émission, c'est pas très émouvant, c'est pas très glamour, c'est simplement pathétique, et c'est ça qui amuse justement le cruel et rigolo Alex Cameron. Je m'en voudrais de terminer l'année 2025 sans éclairer la musique d'un groupe dont je n'ai vu l'album dans aucune de ces listes des meilleurs albums de l'année qui pullulent un peu partout. Je veux parler des trois sœurs californiennes Haim, ça s'écrit H-A-I-M. Elles ont publié cette année un excellent album qui s'appelle I Quit. Alors Haim, c'est le nom de famille de trois sœurs californiennes qui chantent, qui jouent ensemble depuis leur plus tendre enfance. Souvent, je vous les ai fait écouter dans cette émission, je vous ai raconté plus d'une fois leur histoire, donc je vais pas le refaire une énième fois. Tout ce que je me permets de rappeler, c'est qu'elles ont grandi dans une vaste banlieue résidentielle qui est située au nord-ouest de Los Angeles, dans la vallée dite de San Fernando. Alors il y a Estelle, l'aînée à la basse, qui est réputée pour les grimaces qu'elle fait sur scène quand elle joue, et des pas de danse assez spectaculaires. Il y a Daniel au chant et à la guitare, et Alana, la Benjamin, à la batterie. Alors elles ont débuté il y a 12 ans, en 2013, et des commentateurs, souvent d'un certain âge, que des gens comme moi, ont pu comparer leur style, le style des Sœurs Haim, à celui de Fleetwood Mac, qui était un des sommets du rock californien des années 70. Ça n'a pas pris une ride, c'est totalement génial. Pour autant, il n'y a rien de passéiste dans ce que font les Sœurs Haim. Elles sont absolument de leur âge et de leur temps, et l'influence des sons, des chansons de Beyoncé, du R&B en général, est très très sensible dans leurs chansons, comme vous allez pouvoir en juger dans celle que je vais passer. Et juste après, j'attire votre attention sur une autre voix dont on n'a pas assez parlé à mon sens cette année, c'est elle de Ezra Furman, auteur d'un excellent album, un excellent recueil de chansons qui s'appelle Goodbye Small Head et qui n'a pas fait l'actualité hein, comme il l'aurait mérité. Alors, je vous en parle régulièrement depuis que je programme et présente Very Good Trip sur France Inter. Ezra Furman, depuis que j'ai découvert sa voix, eh bien, cette voix a fait plus que me toucher, elle m'a parlé. C'est pas exactement pareil, parce que parfois elle est presque gênante, cette voix, dans sa mise à nu, qui traduit une forme de pureté, un peu comme chez un enfant. Ezra a en effet une façon de traîner sur les mots, de balbutier parfois, de glapir, de s'égosiller avec sa petite voix, qui donne toujours l'impression qu'elle a quelque chose d'urgent à dire et que ça n'attend pas. Alors oui, j'ai dit « elle » parce que Ezra, né homme, comme son prénom peut l'indiquer, est désormais femme. La question de sa transition était d'ailleurs au cœur de son album précédent, qui était paru en 2022 et qui s'appelait All of Us Flames. On écoute Ezra Furman dans un tout nouveau titre qui n'est pas dans l'album, qui s'appelle One Hand Free, mais tout de suite c'est Haim dans Down to Be Wrong, un rayon de soleil dans cette triste grisaille qui nous entoure.
Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it.
My whole heart, trying to fit my soul. Bip sur France Inter, Mishka Assayas.
Ezra Furman dans un tout nouveau titre qui s'appelle One Hand Free. Je rappelle que Ezra a publié un très bel album cette année que je vous encourage à écouter, qui s'appelle Goodbye Small Head. Autre chose, on a beaucoup parlé, rappelez-vous, c'était au début de ce siècle, d'un groupe de rock américain qui venait de Nashville et qu'on avait pu surnommer les Strokes du Sud. Il s'agissait des Kings of Leon. Les Kings of Leon, c'était une aventure assez inattendue. Ils avaient débarqué en 2003 de Nashville. Trois frères, les frères Followill et leurs cousins, alors c'était un peu comme les Dalton, mais enfin sans la disparité dans les tailles. Le plus âgé, c'était Nathan, le batteur, il avait tout juste 23 ans, et le plus jeune, Jared, le bassiste, n'en avait que 16 en 2003. Alors ils avaient passé une enfance très particulière, puisqu'ils avaient grandi, pour ainsi dire, dans une sorte de secte familiale. Hein, j'exagère à peine, le père était un prédicateur itinérant, hein, d'obédience pentecôtiste, et les trois frères Followill et leurs cousins ont eu ainsi une enfance nomade dans le Tennessee et les États avoisinants au gré des affectations du père. Et leur enfance a été marquée par des principes puritains, on rencontre ça dans ces familles, et pour eux la musique c'était les chants religieux et l'écoute, quand on leur permettait, de la radio qui diffusait des chansons country, et parfois ils avaient la chance d'entendre Bob Dylan, mais enfin c'était rare. Et puis alors tout a complètement explosé quand leurs parents ont divorcé, ils ont continué à vivre sous le même toit que leur mère, d'ailleurs, y compris après leur succès, et pareil qu'elle continuait à leur serrer la vis et à les séparer quand ils voulaient se bagarrer autour du barbecue du dimanche. En tout cas, beaucoup de choses ont changé pour les Followill quand ils ont cessé d'être sous l'emprise de ce père très exalté, parce qu'ils ont découvert Led Zeppelin, et puis ils ont rencontré un ami musicien plus âgé qui leur a fait un peu une une histoire du rock en accéléré, des Stones à The Clash, en passant par le Velvet Underground, et c'est une espèce de mentor les a emmenés à New York, et tout est allé extrêmement vite, ça a été explosif. Alors, je me rappelle, je les avais vus sur scène à Londres, il y a 20 ans, sur scène, on les voyait débarquer tous en jeans slim, t-shirt un peu trop court au-dessus du nombril, avec tous les petites moustaches, et ils avaient une pêche, une fougue, une joie incroyable, une sorte de folie qui se répandait dans le public, et donc ils ont disparu des modes, oui, mais ils continuent à remplir les salles, et depuis que le guitariste Matthew Followill a fait l'acquisition de claviers et de synthétiseurs vintage, notamment des années 70, et qu'il travaille avec un certain Marcus Drafts, qui est un collaborateur historique du groupe Arcade Fire, eh bien, le son de Kings of Leon a un peu changé, mais ça reste aussi classique et élégant, comme le révèle cette nouvelle chanson qui s'appelle Two Space, et qui, par son tempo rapide et sa rythmique, rappelle, bon, de loin, mais un petit peu quand même, le style de Motown.
Thank you. My conditions on this iPhone. Everyone does what they want. I believe in helping others. I will sing my freedom song. I donate to worthy causes. I go along to get along. Sing my t-shirt, take it off. Dance these shoes on till we drop. In this land of milk and honey, gay. Though the shirt is old and saggy, and his words will fade away. Simple things, a line or two, succinct and clear, a kind of truth. No pretension, no deep intentless, no mistaking what.
T-shirt, un tout nouveau titre signé par David Byrne dans une forme décidément éblouissante et je m'en serais voulu de l'oublier. Ça sonne vraiment comme un classique oublié du groupe qu'il a fait connaître il y a bien longtemps, les Talking Heads, et qui n'existe plus depuis au moins 40 ans. C'est assez, un petit peu moins, enfin bon bref, peu importe, assez différent de l'album que Byrne a publié cette année qui s'appelle Who is the Sky et qu'il a créé en collaboration avec un orchestre de chambre de 9 musiciens, le Ghost Train Orchestra, dont la spécialité est de créer des orchestrations nouvelles pour des musiques, en général d'autrefois, jazz des années 20 et 30. Et donc c'était une association assez inattendue et très, très heureuse. Mais là, c'est plus classique et plus efficace immédiatement. Tout de suite, une autre voix, une voix féminine qui vient d'un autre continent, le nôtre, l'Europe. Il s'agit d'une chanteuse allemande dont il est tout à fait probable que vous n'ayez jamais entendu parler. Stella Sommer, c'est son nom, est relativement connue dans son pays. Elle a publié une demi-douzaine d'albums, dont un en solo, sous son nom propre, chanté en anglais, parce qu'en général, Stella Sommer chante au sein d'un groupe qui s'appelle Die Heiterkeit, comme la sérénité ou l'euphorie, depuis une quinzaine d'années. Alors je ne sais pas, il existe une certaine façon de chanter, de poser la voix propre à certaines voix allemandes. C'est difficile pour moi de dire exactement ce que c'est, mais enfin, je le perçois, ça peut créer un effet d'étrangeté qui peut déranger. C'était le cas de façon exacerbée chez une chanteuse comme Nico, dont la voix semblait venir d'un lointain ailleurs. Alors que sais-je de Stella Sommer, qu'elle a grandi dans un village côtier de la mer du Nord, dans le nord de l'Allemagne, pas loin de la frontière avec le Danemark. Il y a dans sa voix une certaine désolation accablée et qui peut voisiner avec un émerveillement enfantin les créatures fantastiques de la forêt et de la mer, des légendes germaniques ne sont sont pas loin. Il y a tout un monde silencieux qui est évoqué par la voix de Stella Sommer. La chanson que je vous propose, qui est donc signée Die Heiterkeit, s'appelle Wenn etwas Schönes stirbt, c'est-à-dire quand quelque chose de beau meurt. Et avant ça, il y aura autre chose, une chanson tout en simplicité et en délicatesse, signée par le chanteur et guitariste du groupe américain Wilco. J'ai nommé Jeff Tweedy. Alors Wilco, c'est un groupe qu'on connaît depuis une trentaine d'années. C'est un groupe qui a su renouveler les musiques traditionnelles américaines en y adjoignant des sons très éloignés, hein, parfois expérimentaux, dosés avec une grande délicatesse, une grande élégance. Alors très prolifique, Jeff Tweedy a publié cette année en solo un album très copieux de pas moins de 30 titres qu'il a enregistré dans son propre studio à Chicago, avec un groupe au sein duquel figure son fils Spencer à la batterie et son autre fils Sammy au synthétiseur. Et il y a également avec Jeff Tweedy un excellent guitariste de la ville de Chicago, James Elkington, qui est un virtuose de la guitare folk. Et cette nouvelle chanson signée Jeff Tweedy s'appelle Out in the Dark.
Wenn etwas Schönes geht, wenn etwas Schönes stimmt. Wenn etwas Schönes stimmt, dann macht es kein Geräusch. Wenn etwas Schönes geht, sieht man es nicht gleich, wenn etwas Schönes stimmt. Wenn etwas Schönes stimmt, macht es kein Geräusch, wenn etwas Schönes
quelque chose des ballades crépusculaires du Velvet Underground dans cette chanson signée par le groupe allemand Die Heiterkeit, Wenn etwas Schönes stirbt. C'était la voix de Stella Sommer, une voix mémorable. Wenn etwas Schönes stirbt, c'est-à-dire quand quelque chose de beau meurt. Alors, c'est très particulier pour moi parce que je vais vous faire écouter la voix de quelqu'un qui est devenu une sorte, oui, un ami, on peut le dire, alors que je l'ai connu uniquement via la musique et c'est pas du tout du copinage. Et il s'agit de John Southworth. C'est un musicien canadien qui vit entre Toronto et Montréal et qui est l'auteur, la quarantaine passée, d'une œuvre riche de près d'une vingtaine d'albums. Et le fait qu'il soit si peu connu dans le monde, hein, c'est pas seulement en France qu'il n'est pas connu, reste pour moi un mystère. Il est très estimé dans son pays, le Canada. Il a une belle voix grave de crooner, il a un ton intimiste de conteur, un sens de la mélodie qui peut évoquer les grandes heures du music hall, du jazz léger, du rock'n'roll romantique. Et les Canadiens, comme je vous le disais, ne sont pas loin de considérer John Southworth comme un de leurs plus brillants compositeur de chansons. C'est en tout cas un des secrets les mieux gardés du Canada. Il a publié, il y a de ça 10 ans déjà, un double album très remarqué qui s'appelait Niagara, comme Niagara, consacré donc à la région du Niagara, qui est réputée pour ses célèbres chutes, bien sûr, mais aussi pour les histoires louches, les trafics et faits divers variés qui ont marqué l'histoire de cette région, qui est située donc entre deux lacs, l'Ontario et l'Érié, où se touchent l'est de l'Ontario canadien et l'extrême ouest de l'État de New York. John Southworth n'est pas que musicien, c'est aussi un cinéaste, un réalisateur de vidéos pour lui-même comme pour les autres. C'est un acteur au théâtre. Il a également écrit un livre pour enfants. Alors bon, c'est un garçon qui vient originellement d'Angleterre. Son père, anglais d'origine, donc a émigré au Canada, avait connu un certain succès à Londres à l'époque de la mode du rock'n'roll rétro, c'était au milieu des années 70, sous le nom de Peter Shelley. Alors à la la maison, chez John, il y avait un piano droit sur lequel Peter Shelley, son père, jouait pour les siens des chansons populaires dans tous les styles, jazz, comédie, musicale et rock'n'roll, enfin toute proportion gardée, c'est un peu comme chez les McCartney à Liverpool. Et John Southworth intègre parfois à cet héritage certaines dissonances jazzy que ne renierait pas Tom Waits, et puis il est capable aussi de composer des airs au rythme joyeux et entraînant, et des mélodies très romantiques malgré un ton volontiers mélancolique ou grinçant. En tout cas, son mélange de sérieux, de loufoque et de lyrisme a quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup séduire la France. Et je vous propose un extrait de son dernier album qui s'appelle The Red Castle. Et cette chanson qui s'appelle Somewhere on the Island, qui a été élue deuxième meilleure chanson de l'année par l'édition allemande du magazine Rolling Stone. Et bien dans cette chanson, John Southworth évoque la mort de son père, Peter Shelley.
Self and your low on provisions and life.